Bonjour, nouvelle vie. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à toi qui écoute, qui est devant ton écran. Bienvenue à Nouvelle Vie. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai un peu la voix rauque, mais ça va se passer. Donc, vous avez besoin de m'encourager. Amen. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour la fête des mères. Et juste avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères, une bonne journée à toutes les femmes de l'Église, toutes les mamans spirituelles, les tatis, les mamies, les grands-mamans. Vous êtes fabuleuses. Si tu es assis à côté d'une femme, dis-lui « tu es fabuleuse ». Et je veux remercier Pasteur Claude. Merci, Pasteur Claude. Chantal, votre soutien, votre appui. C'est un pur bonheur d'être à la maison. Et au nom de toute l'équipe pastorale, je veux dire merci à toutes les mamans. Merci pour votre patience. Merci parce que des mamans, ça prend de la patience pour être maman. Y a-t-il des mamans dans ce lieu? Ça prend de la résilience. Merci pour votre résilience. Ça prend du courage. Peut-être que tu es venu aujourd'hui, ton courage est un peu faible. Dieu va redonner courage aux mamans aujourd'hui. Je le crois sincèrement. Ça prend de la détermination pour être maman. Ça prend un amour inconditionnel. Et pour toute cette raison, nous voulons vous dire merci. Vous êtes des perles sur le collier de Dieu. Vous êtes des diamants. Vous brillez pour la gloire de Dieu. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es assis à côté d'un diamant ce matin. Tu es assis à côté d'un diamant. Et le titre de mon message, sans plus tarder, c'est « Comment renouveler son énergie malgré les pressions de la vie. » Et je trouvais que c'était un titre pertinent, bien sûr pour les mères, mais pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons tous besoin d'être renouvelés dans notre énergie, dans nos forces, parce que nous faisons toutes face à des pressions. Les pressions, les mamans, il y a toutes sortes de pressions. Être maman, c'est une tâche complexe. Il faut, et je le sais pertinemment pour l'avoir fait dans ma vie, il faut trouver l'équilibre entre le travail et ta vie de maman. Il faut composer avec la charge mentale. Ça veut dire toute l'organisation, la planification, la gestion au quotidien. Une maman, dans une même journée, peut emmener ses enfants chez le dentiste, les emmener au gym, peut-être au gym, au hockey, la gymnastique, peut acheter un gâteau de fête et préparer le souper dans la même heure, des fois. Amen? Alors, ça y a un peu de stress. Bien sûr que les papas, on ne vous oublie pas, vous êtes impliqués aussi dans toute l'éducation des enfants. Mais on s'entend qu'être parent aujourd'hui, ça demande, il y a beaucoup de pression. Et c'est pourquoi je voudrais vous proposer trois clés très, très pratiques pour renouveler tes forces sous la pression. Première clé, sois authentique. Deuxième clé, sois équilibré. Et troisième clé, sois confiante ou confiant, car Dieu a une promesse, car Dieu a un miracle pour toi aujourd'hui. Dieu est le Dieu des miracles. Et si tu vis une situation difficile dans ta maison, sois confiant parce que Dieu entend ta prière et il vient en puissance à l'appel de son nom. Le premier point, j'ai dit, sois authentique. Et c'est pour ça que je dis, ces trois clés-là sont autant pour les hommes que pour les femmes. Et le texte qu'on regarde ensemble, c'est dans le livre des Rois, au chapitre 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 2. Et je vous le dis. Ça dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Et Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Et elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. » Elle n'a qu'un seul vase d'huile. Et quand on s'arrête, on regarde cette histoire-là, c'est vraiment l'histoire d'une maman. C'est une femme, une veuve qui vient de perdre son mari. Elle est dans la tristesse. Elle a perdu son mari. Elle est maintenant une femme monoparentale. Elle est seule pour élever ses deux enfants. La Bible nous dit qu'elle est sous pression. Bien sûr, la pression d'élever ses enfants seuls, mais s'ajoute à ça une tragédie. Elle a une pression financière. La Bible nous dit que son mari l'a laissée avec des dettes et les créanciers sont après elle pour venir prendre ses enfants et les vendre comme esclaves. Et je trouvais qu'encore aujourd'hui, on peut se retrouver comme parent, comme père ou comme mère dans cette situation ou comme un individu, un être humain qui connaît Dieu puis dit « Seigneur, je suis sous la pression. » Et en fait, quand je regarde à cette femme-là, ce qui me frappe, c'est qu'elle a été authentique. Elle connaissait, la Bible nous dit qu'elle connaissait Dieu. Et pendant qu'elle sait qu'elle connaît Dieu, elle va vivre des épreuves terribles, le deuil, les problèmes financiers. Et moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, de la même nature que moi, mais même si on connaît Dieu, il nous arrive de vivre des défis, de vivre des pressions. Et cette femme-là va aller vers le prophète Élisée. Et Élisée représente, il fait figure, représente la présence de Dieu sur la terre. Alors, malgré tout ce qu'elle vit, elle est authentique. Elle va aller voir le prophète. Et lui, il va lui dire, « Que puis-je faire pour toi? » Et là, elle va lui dire tout ce qu'elle vit. Et j'aime la franchise de cette femme. Elle n'essaie pas d'avoir l'air spirituelle. Parce que je sais que ce n'est pas à Nouvelle Vie que je m'adresse, parce qu'à Nouvelle Vie, vous êtes vraiment spirituel. Mais des fois, hein, quand on vit des situations comme mère, on veut des fois avoir l'air spirituel, parce qu'on veut montrer qu'on est une bonne mère, tu vois. Elle n'essaie pas d'être une superwoman. Elle lui dit carrément, j'ai plus rien. Elle n'essaie pas d'avoir l'air parfaite. Et vous savez, aujourd'hui, c'est assez difficile d'être authentique avec les réseaux sociaux. Avez-vous remarqué que sur les réseaux sociaux, tout le monde est parfait? Tout le monde est parfait. Tous les enfants des autres mères sont parfaits. Tous les maris des autres femmes sont parfaits. Et c'est malheureusement, des fois, on met des choses, on n'est pas authentique. Et vous savez, les photos, hein, tout le monde paraît bien sur leurs photos Instagram. Le truc, c'est qu'ils mettent la main comme ça. Tu vois, c'est ça, il faut que tu apprennes que tu découvres ça plus tard, que tout le monde n'est pas parfait sur les réseaux sociaux. Mais cette femme-là va être honnête. Elle a été honnête. Et qu'est-ce que ça veut dire être authentique? C'est être soi-même. Être authentique signifie être vrai et sincère, agir et parler de manière honnête, cohérente et fidèle à soi-même. Cela implique de ne pas dissimuler nos émotions. Comme maman, comme homme, comme femme, est-ce que tu es honnête avec Dieu? Est-ce que tu es capable d'aller cœur à cœur et de lui dire ta situation? Est-ce que dans ton entourage, être authentique, ça ne veut pas dire raconter sa vie à tout le monde, mais est-ce que tu as un endroit dans ton entourage proche où tu peux être toi-même? Cette femme-là a été elle-même. La deuxième chose d'être authentique, savez-vous, c'est quoi? C'est aussi enlever les étiquettes. Enlever les étiquettes. Vous savez, des fois, quand on achète des vêtements, on va voir des étiquettes qui vont pendouiller et des fois, on peut se promener avec des étiquettes. Mais dans notre vie d'hommes et de femmes, hein, parce que ce n'est pas juste les femmes qui ont des étiquettes, parfois, on marche dans la vie, on perd de l'énergie en n'étant pas authentique, en essayant d'impressionner autour de nous, pour montrer qu'on est une bonne mère et qu'on a des bons enfants. Mais aussi, des fois, on perd de l'énergie parce qu'on porte sur nos épaules l'étiquette que quelqu'un a posée sur nous. Une étiquette, c'est une indication qui permet de qualifier la nature d'une personne. Et on a toutes eu des étiquettes sur notre vie. Moi, à l'âge de 6 ans, j'ai eu Madame Monique. Puisqu'on est en ligne et qu'on est vu partout dans le monde, juste les noms ont été changés. Mais les événements sont exactement comme ça. Madame Monique, j'étais en 6e année et mes parents, on habitait sur la rive sud de Montréal et en plein milieu de l'automne, au mois de décembre, on a déménagé de la rive sud dans une petite ville qui s'appelle Rimouski. Et là, j'ai été changée de classe, bien sûr, et première année, je suis mise dans la classe de Madame Monique. Alors, pour l'instant, ça va bien, Madame Monique est là. Et je pense que c'est la première ou la deuxième journée en classe, Madame Monique a eu une idée de génie. Elle a dit, Stéphanie, viens au tableau, viens nous lire le mot qui est écrit au tableau. Et puisque ce n'était pas la même commission scolaire, les élèves de la classe de Mme Monique savaient lire, mais moi, je ne savais pas lire. Et là, j'ai été devant le tableau, je suis venue tout rouge, je me suis mis à pleurer, et là, finalement, je m'en souviens encore aujourd'hui, quelques années plus tard, n'est-ce pas? Le mot, c'était « sapin ». C'était en Noël, en décembre, « sapin », j'aurais dû y penser, tu vois. Et Mme Monique a rencontré ma mère, et elle a dit à ma mère, franchement, votre fille, Stéphanie, elle a des gros problèmes, avoir des gros problèmes à l'école. Ils m'ont fait passer des tests et ils ont vu que j'étais dyslexique, tu vois, les P, les B, les tout, c'est tout ça. Et ils ont dit, probablement que Stéphanie va doubler sa première année, puis je pense qu'elle va avoir de la difficulté à l'école. Avez-vous eu déjà Mme Monique dans comme professeur? Qui a eu une Mme Monique qui vous a dit, vous étiez nulle? Tu sais, les étiquettes, c'est ça, hein? Je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je ne serai jamais capable. Les gens qui peuvent nous mettre des étiquettes. Et Mme Monique, elle avait complètement faux, parce que j'ai fait 12 ans à l'université, j'ai obtenu un doctorat. Donc, on enlève les étiquettes. Mme Monique, tu n'as plus l'affaire dans ta vie. J'ai aussi Guy Tremblay, aussi le nom a été changé. Guy Tremblay, je suis... Ah, ça fait du bien, c'est une thérapie, ça me fait du bien. Guy Tremblay, vous allez voir, vous les femmes, vous avez toutes eu un Guy Tremblay dans votre vie. J'étais à l'adolescence. Je suis à la polyvalente. Moi, je trouve que ça va bien ma vie. Et là, je mange mon lunch. J'ai un beau lunch, deux sandwichs. À cette époque-là, on mangeait des gâteaux vachons. Tu sais, on n'en mange plus aujourd'hui, on mange bio. Mais à cette époque-là, on buvait du... Enfin, bref. Et là, Guy Tremblay arrive à la cafétéria. Et là, mes amis, Guy Tremblay, là, c'est le gars qui joue au hockey. Le beau gars, tu sais, populaire, tout, là, il y a tout. Donc, moi, là, j'ai comme ça, j'ai un peu de mayonnaise de ma sandwich, là, puis je regarde. Et là, Guy Tremblay, on est deux, trois filles ensemble, il s'approche vers nous. Et il vient me parler à moi. Savez-vous qu'est-ce que Guy Tremblay m'a dit? Il dit, Stéphanie, il me semble qu'une sandwich, ça aurait été suffisant. Qu'est-ce que Guy Tremblay voulait me dire? En tout cas, il ne voulait pas me dire ce que moi, je m'attendais, tu vois. Et toutes les étiquettes du poids, de la taille, du look, de ci, de ça, on peut avoir des étiquettes au niveau de nos capacités. On peut avoir des gens qui nous ont mis des étiquettes au point de vue de notre physique. Mais si je suis honnête avec vous, les étiquettes les plus importantes, parfois, c'est nous qui nous les mettons. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, Dieu veut que nous enlevions les étiquettes. Parce que lorsqu'on marche dans la vie avec ces étiquettes-là, on perd de l'énergie. Et les étiquettes qu'on peut se mettre, c'est « je suis nulle, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas une bonne épouse. » Est-ce que vous en avez des comme ça, vous? Mais les étiquettes qui sont plus lourdes à porter. Et alors que je priais pour ce message-là, j'avais vraiment cette compassion-là. Que vous êtes toutes bien beaux aujourd'hui, bien belles, mais certaines, vous avez une étiquette qui est là, c'est abusé. Tu as été peut-être victime d'abus, tu es peut-être face à un divorce, tu portes quelque chose, un poids, une honte, et Dieu te dit aujourd'hui, c'est le temps d'enlever les étiquettes de ta vie. C'est le temps d'enlever les étiquettes de ta vie. Tu n'es pas... ce que les autres disent de toi, tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. C'est un choix aujourd'hui qu'on peut faire de dire, aujourd'hui, je l'enlève. On va voir la prière tout à l'heure et je vais prier que Dieu puisse venir enlever. Stephen Covey a dit, un auteur de best-seller des 7 habitudes des gens qui réussissent, « Je ne suis pas le produit de mes circonstances. » Je suis le résultat de mes choix. Nous avons le pouvoir de choisir. Un jour, j'ai pu choisir de dire, « Madame Monique, tu n'as plus d'impact dans ma vie. Guy Tremblay, tu n'as plus d'impact dans ma vie. » Et je prie qu'aujourd'hui, tu fasses ce choix-là. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. C'est ça ta valeur. Tu vaux le prix du Fils de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique par amour pour nous. Et je t'invite à le découvrir à l'espace bienvenue. Si tu ne connais pas ce Jésus personnellement, mais ce Jésus t'aime, tu vaux ce prix-là. Et tu sais... Et tu sais, ta valeur n'a rien à voir à ce que tu es célibataire ou marié. Ta valeur n'a rien à voir si tu as un diplôme ou pas de diplôme. Ta valeur n'a rien à voir avec ton passé. Ta valeur a à voir avec l'amour de Dieu. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu dit de nous, hein? 1 Pierre chapitre 2, verset 9, ça dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Bon, peut-être que tu ne sais pas c'est quoi un sacerdoce royal, là, mais tu es royal. Tu es royal. Tu fais partie de la famille du roi des rois. Tu es héritier du roi des rois, co-héritier avec Christ. Tu es, si tu es une femme, tu es une princesse, tu es la fille du roi des rois. Si tu es un homme, tu es un prince, tu es le fils du roi des rois. Tu sais, ta voisine, ton voisin, t'es assis à côté d'une princesse ou d'un prince. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et moi, j'étais un peu destinée à la royauté. Je m'appelle Stéphanie et ma sœur Caroline, les deux princesses de Monaco, voyez-vous? Alors, je suis destinée à ça. Et la Bible nous dit, hein, Éphésiens 2, 10, que nous sommes son ouvrage. Nous sommes le poème de Dieu. Dieu a écrit une histoire juste pour ta vie. Et c'est ce que Dieu veut accomplir ses promesses. Et un homme dans la parole de Dieu qui a choisi lui, de ne pas porter d'étiquette. Et cet homme, c'est Jabet. Jabet, la Bible nous dit en 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10, Jabet était plus considéré que ses frères. Ça veut dire que Jabet, considéré, ça veut dire qu'il avait plus d'honneur, plus riche, qu'il était plus honoré et traité avec honneur. Et pourtant, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabet aurait pu choisir de garder cette étiquette-là toute sa vie, mais il a fait un choix. Il a dit, « Moi, ma vie ne sera pas douleur. Moi, mon passé ne déterminera pas mon futur. » Et savez-vous comment il a reçu ça? Par l'aide de Dieu. Il a prié Dieu. Il a dit, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » C'est ça? Et Dieu lui a accordé. Jabet a fait 4 demandes que tu peux faire pour ta vie aujourd'hui, que tu peux faire pour ta maison. Tu peux dire, je ne serai plus douleur, je ne serai plus abus, je ne serai plus viol, je ne serai plus ridiculisée, je ne serai plus celle qui est intimidée, je ne serai plus me traiter de nulle ou incompétente. Je peux prier la bénédiction divine sur ma vie. Il a demandé, si tu me bénis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ta maison. Dès Genèse, il a dit, ah, soyez féconds, il les a bénis. Dieu veut te bénir afin que tu sois une source de bénédiction. La bénédiction divine, si tu me bénis, l'expansion divine et que tu étendes mes limites. Tu peux demander que Dieu étende ton territoire, étende pour ta maison. Il a demandé la puissance divine. Et si ta main est avec moi, quelle belle prière pour notre maison. Si ta main est sur notre maison, est avec moi, tu peux demander la protection divine. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et comme mère, on peut prier ça. Mets ta main sur ma vie, sur mon mari, sur mes enfants. Étends nos limites afin que la souffrance s'éloigne de notre maison. Et je peux le proclamer parce que je l'ai vu faire dans ma maison. Je l'ai vu faire dans ma vie. Et si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aujourd'hui. J'ai dit, comment renouveler nos forces? Sois authentique. Quand on n'est pas vrai, vous savez, quand on regarde les qualités les plus recherchées, l'authenticité est une des plus grandes qualités. Et comment on est authentique quand on est nous-mêmes et quand on ne laisse pas les autres nous mettre des étiquettes? On enlève aujourd'hui. Deuxièmement, sois équilibré. En janvier, j'ai eu, comme plusieurs d'entre vous ou d'entre nous sur l'équipe pastorale, plusieurs d'entre vous aussi à l'Église Nouvelle Vie, souvent nous commençons le mois de janvier avec un jeûne et prière. Et cette année, j'ai fait la même chose, comme à chaque année, mais j'ai eu une idée de génie, du grand génie. Imagine, je me suis dit, même si je jeûne, je vais aller m'entraîner au gym. C'est du grand génie, n'est-ce pas? Et alors que je m'entraîne, il y avait un bench, au gym où je vais, il y a un benchmark, et c'était une journée où il fallait courir 1 000, et 1 000, 1,6 km. Pour vous, ça a l'air peut-être de rien, mais c'est quand même, il faut le faire. Et on a une application et on sait pendant combien de temps tu cours 1 000, combien de temps ça te prend. Donc moi, puisque dans la vie, le but, ce n'est pas de participer, mais c'est de gagner, n'est-ce pas? Donc le but, c'était, il faut que je rencontre mon objectif. Donc, je regarde l'appli, je l'ai couru en, je ne le dirais pas combien, et finalement, j'arrive au gym, et là, je me sens comme une gazelle, tu sais, je suis prête, je cours, mais je n'ai pas mangé. Donc, quelques secondes après, je commence à avoir un certain inconfort, et je regardais les gens autour de moi, les filles, ça courait comme, tu sais, sur le tapis, il y a les cheveux dans le vent. J'avais juste envie de mettre mon pied sur le tapis pour les faire tomber, et parce que moi, j'en pouvais pas. Je le sais que vous ne ferez pas ça, vous autres, là, mais c'est juste moi qui fais ça. Et là, finalement, bien sûr que je n'ai pas atteint mon objectif, et là, j'étais déçue. Et dans la voiture, Dieu m'a fait une grande révélation. Prenez note. Est-ce que c'est possible que tu n'as pas atteint ton objectif parce que ton réservoir est vide? Est-ce que c'est possible que parce que ton réservoir est vide énergétique, tu n'as pas atteint ce que tu voulais faire? Et la pensée est venue sur mon cœur, et Dieu a développé cette pensée que j'essaie de mettre en pratique et que j'aimerais vous partager. Et je le fais de mieux en mieux. Vous savez, Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Chaque facette de notre vie représente un réservoir. Et lorsque vous avez, je les ai emmenés ici, oups, c'est comme ces vases. On comprend très bien, par exemple, pour une voiture qui s'en va dans une certaine direction, si le réservoir de carburant est vide, on comprend que la voiture ne peut pas aller très loin, elle va s'arrêter. Et c'est la même chose dans nos vies. Lorsque nos réservoirs corporels, physiques, émotionnels et spirituels sont vides, il se peut que tu n'as plus d'énergie, de force pour combattre sous la pression ou marcher dans ta destinée. On comprend bien, si je viens au réservoir physique, avec l'image que je vous ai donnée, c'est facile de comprendre que si je n'ai pas d'énergie comme mère, comme père, comme homme, comme femme, quand je suis fatiguée, ça se peut très bien que je n'ai pas la force de relever des défis et de combattre la pression. J'ai fait 3 semaines à Paris où j'ai pas arrêté. J'ai travaillé, prêché beaucoup. Et quand je suis revenue de Paris, j'ai commencé la semaine, je suis revenue le lundi, et là, je me suis mis à prier dans la semaine, à regarder, j'avais des choses à préparer pour Exponentielle, et tout était noir. Mais il me semble qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Il y a tout, tu comprends? Pourtant, je suis la même personne. Et là, encore une grande révélation. Le Seigneur m'a dit, « T'es juste fatiguée. » Va te reposer et ça va aller mieux. Et je crois sincèrement dans ce lieu, il y a des gens, vous êtes juste fatigués. Et Dieu envoie quelqu'un aujourd'hui pour te dire, tu as le droit de te reposer. Tu as le droit comme maman, comme papa, comme homme, comme femme, de te reposer. Parce que quand le réservoir est vide, ça vient fausser ta vision, ça vient fausser tes prises de décision. Le corps a besoin d'avoir du repos, du réconfort et des récompenses. Trouve la façon de faire. Mais le deuxième réservoir qui est encore plus important, j'ai dit à Pasteur Claude, j'étais à Bruxelles quand le Seigneur m'a donné cette pensée-là, et le Seigneur me disait, dans ce lieu, aujourd'hui, il y a des gens, votre réservoir émotionnel est vide. Nous avons, chacun et chacune d'entre nous, besoin d'aimer et d'être aimé. Ce n'est pas une question d'être une femme ou un homme. Dieu nous a créés avec le besoin d'être aimé, de se sentir aimé et de donner de l'amour. Et lorsque, dans la vie aujourd'hui, on est appelé, comme maman, à se déverser dans la vie de plusieurs personnes. Si je viens ici, c'est on se déverse dans la vie de nos enfants. On se déverse dans notre mariage. On se déverse au travail. On se déverse dans nos enfants. On se déverse dans nos enfants. On se déverse dans nos enfants. Et même si on aime Dieu de tout notre cœur, il peut arriver que nous soyons vides. Vides. Et le Seigneur veut aujourd'hui venir te remplir. La Bible nous dit comment, hein, comme, je te posais la question, comment je peux remplir mon réservoir émotionnel? Comment je peux faire ça? Bien sûr, dans la présence de Dieu. C'est une façon. La Bible nous dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce matin, tout à l'heure, on va prier. Si tu es venu dans ce lieu, tu te sens vide émotionnellement. Tu as besoin que Dieu vienne répandre son amour. Il va venir le faire. Mais aussi, la façon dont Dieu nous a créés, il nous a créés pour que c'est dans les relations les uns avec les autres aussi qu'on remplit ce réservoir-là. Et je veux t'encourager. J'ai dit, hein, les relations, tu dois réévaluer et recentrer tes relations. Et je veux le dire pour être obéissante à Dieu. Peut-être que je vais vous surprendre, mais j'ai fait un cercle ici. Le cercle, le centre du cercle, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et il y a des relations qui sont constructives, qui redonnent des forces. Ça peut être avec ton épouse, ton mari, ta femme, ça peut être avec tes enfants autour de toi, ça peut être avec des amis. Et pour remplir ton réservoir émotionnel, c'est important de nourrir ces relations-là. Prends le temps de nourrir, arrive pas à sec. Mais j'ai ajouté un petit peu plus loin dans le cercle, là peut-être que c'est là que je vais te surprendre. Dans le cercle, il y a des relations qui sont vidantes. Il y a des relations qui sont épuisantes. Est-ce que vous êtes avec moi ou je suis la seule? Et Dieu nous donne le droit. Tu as le droit de te reposer, mais tu as le droit aussi de prendre certaines relations qui t'épuisent, de les mettre pour un certain temps à l'extérieur du cercle. Et là, peut-être que tu vas dire, ouais, franchement, Stéphanie, la Bible nous appelle à pardonner. La Bible nous a, ça ne veut pas dire que parce que tu prends une personne qui t'épuise émotionnellement et que tu la mets à l'extérieur du cercle pour un certain temps, que tu n'as pas pardonné. Je ne peux pas aller dans les détails parce que c'est trop personnel, mais dans ma famille élargie, cette année, j'ai vécu une situation qui m'a blessée énormément. Comme vous, même nature que vous, je suis allée devant Dieu. Sur le coup, j'avais de la difficulté à pardonner. Je suis très honnête, authentique. On a dit « soyons authentiques ». Authentique. J'ai dû aller devant Dieu demander pardon. Et ça prend un certain temps. Je crois que j'ai relâché cette personne-là. Mais dans la prière, je sentais l'accord de Dieu me dire, pour te protéger, parce que tu as beaucoup à donner, mets-la pour un certain temps à l'extérieur. Et quand tout ça ira mieux, tu la ramèneras à l'intérieur. Nous avons le droit de se protéger. Parce que, vous savez, cette veuve-là qu'on a vue dans l'histoire, le prophète lui a dit, « Qu'as-tu à la maison? » Et en fait, « Qu'as-tu à la maison? » Elle a dit, « Je n'ai qu'une petite fiole d'huile. » Qu'un vase d'huile. Et en fait, le terme vase, des fois, on va penser que c'est un vase avec beaucoup de... Pas un vase avec où il y a de l'huile d'olive, ainsi de suite. Mais le terme hébreu, en fait, la femme n'avait qu'une petite fiole, toute petite comme ça. Et elle s'est sentie, elle a dit, « J'ai rien dans ma maison. » Et on va voir la suite de l'histoire dans quelques instants. Alors qu'elle a vu son besoin, qu'elle a dit, « Ma fiole est toute petite et elle est vide. J'ai besoin que Dieu vienne la remplir. » Et Dieu, aujourd'hui, peut venir te remplir ton réservoir corporel, te renouveler des forces. Il peut venir remplir ton réservoir émotionnel. mais j'ai dit aussi ton réservoir spirituel. Je ne voudrais pas développer parce que je veux respecter le temps qui m'est alloué, mais je veux vous encourager à aller prendre du temps pour être renouvelé dans vos forces spirituelles, d'être ressourcé et renouvelé. Il y a toutes sortes d'outils. Vous savez, je parlais avec Jérémy, j'étais en train de lire ma Bible, mon fils plus jeune, et je lisais ma Bible, et j'ai une pensée extraordinaire. J'ai dit, Jérémy, réalises-tu que ça fait 40 ans que je lis le même livre? Ça fait 40 ans que je lis la Bible. Il se peut, mes amis, authenticité, que des fois, franchement, je ne sais plus par où aller lire. Je sais que vous êtes spirituel, vous, là. Vous lisez tout ça à tous les ans, à tous les jours. Mais il y a des fois qu'on ne sait plus par quel bout lire la Bible. Et je veux t'encourager de prendre du temps, de remplir ton réservoir spirituel, bien sûr en ligne, des webinaires, des podcasts, des choses qui s'appellent encore, qui existent, des livres. Mais prendre du temps dans la présence de Dieu pour être ressourcé, avoir une vie équilibrée. Une vie équilibrée, c'est une vie dans laquelle on parvient à trouver un juste équilibre entre les différents aspects de sa vie. Et c'est tellement important. Je vous dis sincèrement, lorsque nos réservoirs sont vides, notre vie peut être en danger. Lorsque le réservoir physique est vide, tu peux prendre de mauvaises décisions. Lorsque ton réservoir émotionnel est vide, tu peux aussi prendre de mauvaises décisions qui peuvent influencer ta vie. Et lorsque ton réservoir spirituel est vide, tu n'as plus la force. Alors, il faut que tu sois en équilibre. Alors que j'arrive tranquillement à la fin de ce message, est-ce qu'un, deux ou trois de tes réservoirs sont vides? Élisée a dit à cette femme, « Que puis-je faire pour toi? » Et Dieu te pose la même question ce matin, « Que puis-je faire pour toi? » Quelle est ta situation? Elle a été authentique. La deuxième question, « Qu'as-tu à la maison? » Et en fait, cette femme avait juste un petit vase bien vide. Peut-être c'est ta situation aujourd'hui. Et à cause de cela, ça t'enlève tes forces. Mais la dernière clé que je veux te partager, c'est reste confiante. Demeure confiante. Si tu es authentique, que tu enlèves les étiquettes, tu vas renouveler tes forces. Si tu vas à Dieu et dans tes relations pour remplir tes réservoirs, tu vas renouveler tes forces. Et la troisième clé, c'est demeure confiant. Parce que la crainte, les doutes, la peur, toutes ces choses-là viennent nous vider de notre énergie. Lorsque le temps qu'on perd à s'inquiéter, et comme mère, on en prend du temps à s'inquiéter, comme Pasteur Claude a dit, les mères ne dorment pas, elles s'inquiètent les yeux fermés. Mais bien souvent, mes amis, l'inquiétude vient nous voler nos forces. Et je veux te dire aujourd'hui que Dieu est encore capable de faire un miracle dans ta maison. Je veux le dire haut et fort, parce que cette année, j'ai voyagé plus que jamais, et je vous dis, j'ai vu le miraculeux. J'ai vu des jeunes femmes qu'on a su aujourd'hui qu'ils sont tombées enceintes, que Dieu a guéri le couple d'infertilité. Dieu est encore capable aujourd'hui de guérir. Dieu est encore aujourd'hui capable de guérir un mariage. Dieu est encore capable de ramener des enfants qui sont éloignés de lui et les ramener à la maison. Garde confiance en Dieu. Il est celui qui ne change pas. Et cette femme-là, hein, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été authentique. C'est ce que je vis. J'ai des créanciers qui veulent prendre mes enfants. Est-ce que c'est pas la même chose? Mais si on le transpose aujourd'hui, est-ce que nous, comme parents, il y a encore des créanciers qui veulent prendre nos enfants et les emmener en esclavage? Et Dieu a fait un miracle qu'elle ne s'imaginait même pas. Elle a dit, c'est ma situation. Elle a réalisé, j'ai juste un petit vase, c'est vide. Comment je peux voir le miraculeux? Et finalement, Dieu a fait le miracle. Mais aujourd'hui, il y a trois façons. Des fois, avec l'usure de la vie, parce que je suis honnête avec vous, on sait que Dieu peut le faire. Mais lorsqu'on est dans l'attente du miraculeux, il peut arriver qu'on perde la foi. Authenticité. Sarah, une femme, On sait, hein, Dieu a donné une promesse à Sarah et à Abraham. Dieu leur a dit hein, qu'elle allait avoir enfanté. Et ça se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 18. Ça dit, Sarah, j'ai dit trois réactions face au miraculeux. La première réaction, c'est Sarah. Elle n'y croit pas ou elle n'y croit plus car elle a peur d'être déçue. Est-ce que moi, j'ai déjà été Sarah? Le texte nous dit, Genèse chapitre 18, versets 11 à 14, « Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurai-je encore du plaisir et mon mari aussi est un vieillard. » On a peut-être déjà tout été Sarah, même plus penser l'idée que c'est possible, même juste penser à l'idée d'aller avoir une relation avec son mari, c'était déjà un miraculeux. Soyons honnêtes, fallait passer par cette étape-là avant de voir le miraculeux. Et la Bible très claire, elle dit pourquoi Sarah a-t-elle ri? Moi, je comprends, ça fait des années qu'elle attend son miracle. Et il y a dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Je veux le dire haut et fort ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop extraordinaire que Dieu ne peut pas accomplir? Je vous rappelle que Sarah est tombée enceinte. Et je veux le donner par la foi à quelqu'un qui attend mois après mois la déception. Un couple, une famille, un homme, une femme, mariés ensemble, qui chaque mois désire avoir un enfant. Et le Seigneur dit ce matin, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire? Si je l'ai fait pour Sarah, je peux le faire pour toi aujourd'hui. Reste confiant, reste confiant. Il y a la deuxième réaction, et ça aussi, ça c'est moi. La réaction d'un homme. Il croit que Dieu peut faire le miracle, mais il a des idées préconçues. Il croit que Dieu peut faire le miracle, mais à sa façon. 1 Roi, chapitre 5, verset 1 à 14, je vous fais un petit résumé. Naaman était un homme riche. La seule chose, c'est qu'il a la lèpre, il est malade. Alors, il entend dire que Élisée, encore notre prophète, peut le guérir. Alors, Naaman, c'est pas comme Sarah. Sarah, elle, elle y croit plus. Naaman, lui, il croit encore, mais il pense que ça va être comme ça, comme ça. Alors, il dit, hein, il prend pour aller voir le prophète, il prend avec les 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or, 10 vêtements de rechange, il arrive avec ses chevaux, son char, sa lettre pour recevoir son miracle. Et Élisée va lui envoyer un messager. Il va dire, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra pure. Imaginez l'histoire. Naaman a besoin d'une guérison. Il croit qu'Élisée peut le guérir. Mais il s'était tellement imaginé que lorsqu'il lui dit, tu vas être guéri, la parole de Dieu, c'est écrit, noir sur blanc, ça dit, Naaman fut irrité. Si vous lisez l'histoire, c'est quand même, il lui a dit qu'elle allait être guérie. Et là, regardez, c'est succulent la parole de Dieu, ça dit, « Et voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, il agitera sa main sur la place et guérira. » Est-ce que tu peux te reconnaître dans ça? Tu penses, tu veux ton miracle, tu attends la réponse à une promesse, à une prière, et tu as tellement l'impression que Dieu va le faire de même. Et ça, là, mes amis, je suis tellement tombée dans ce piège-là souvent. Authenticité. Alors, moi, je me fais des plans, des scénarios. Et des fois, je me dis toujours, mes plans sont meilleurs que ceux de Dieu. Bon, ça, c'est... Et j'étais récemment dans un voyage, j'étais en Europe. Et puis, j'arrive pour... Je retournais chez moi, j'étais bien fatiguée. Et puis, j'arrive pour m'enregistrer à l'aéroport. Et là, vous savez, moi, j'avais beaucoup... très peur de prendre l'avion, mais Dieu m'a guéri. Maintenant, je suis comme dans mon salon, mais j'ai quelques petites habitudes, voyez-vous? Alors moi, avant de m'enregistrer, je fais le pré-enregistrement et je réserve toujours le siège le 19D. Si vous volez sur Air Canada, le 19D, Montréal-Paris, c'est mon siège. C'est toujours le 19D. C'est toujours, c'est à moi, ça me, je suis bien ensemble. Donc, préenregistré, j'ai le 19D. Et là, la dame, elle me dit, je suis désolée, madame, mais on a eu un petit problème, un petit souci, et on ne pourra pas vous donner le 19D. Là, je ne voulais pas montrer que j'étais contrariée parce que, tu sais, j'avais l'aspect. Je voulais avoir l'air spirituel, voyez-vous, mais elle insiste. Fait que j'ai dit, mais vous ne comprenez pas, c'est parce que je suis voyageur fréquent. Et moi, c'est en économie. C'est économie, mais c'est 19D. Fait que, bon, tu vois, je m'énerve un peu, je suis un peu agacée. Et finalement, elle prend la carte d'embarquement, elle me la glisse sur le comptoir comme ça. Fait que je regarde. 2A. Est-ce que ça vous va, madame? Oui, oui, merci. C'est 2A, 19D, tu t'en vas en économie, 2A, tu t'en vas en première classe, tu vois? Et là, moi, tout le long, je râlais parce que je voulais le 19D, tu comprends? Et pendant qu'elle me donne ça, je dis, ah! Et Dieu, la pensée qui est venue sur mon cœur, c'est que c'est la même chose avec Dieu. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voix au-dessus de nos voix. Peut-être qu'en ce moment, tu penses que Dieu va agir de telle façon, mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il agit pas. Et ce n'est pas parce qu'il le fait pas à ta façon qu'il n'est pas en train de te préparer ton miracle. Et je le dis haut et fort parce que cette année, je l'ai vu dans ma propre maison. Alors qu'on priait, on priait, j'irai pas dans les détails par respect, mais Dieu a agi d'une façon surnaturelle dans ma maison, dans notre maison, dans une façon où je m'y attendais pas. Mais Dieu l'a fait. Alors encourage-toi. Et la dernière clé, j'ai dit, sois authentique, sois équilibré. La Bible nous dit, Martin Luther a dit, travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Sois authentique, équilibré, ça dépend de toi. Mais reste confiant, parce que le miraculeux appartient à Dieu. Et la dernière réaction, Sarah, peut-être que tu es Sarah dans ce lieu. Il y a des choses dans ma vie où je n'espérais pas. Des choses personnelles dans ma maison, parce que le temps passait. Après ça, j'ai été maman. Je voudrais que ça soit comme ça, Seigneur. Le Seigneur l'a fait différemment. Mais le plus beau miracle, c'est celle de notre veuve, et je termine avec celle-ci. Elle croit, même si sa situation semble impossible, elle croit et elle voit le miraculeux. La fin du texte nous dit, 2 Rois, chapitre 4, verset 3, ça nous dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu, il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tes enfants seront libres et tu vivras, toi et tes fils. » Et moi, je peux m'imaginer cette femme. Imaginez cette femme avec ce petit flacon. Ça prend une certaine foi d'aller cogner chez tes voisins. Authenticité. Ils savent très bien qu'elle est veuve, qu'elle n'a pas d'argent puis que ses enfants vont être vendus. Elle a laissé de côté les étiquettes, est allée cogner. Elle a dit, « Avez-vous des vases? » OK, j'emmène un. Avez-vous des vases? OK, j'emmène un. Avez-vous des vases? Ça avait l'air ridicule de faire ça, mais elle a cru que si Élisée, si Dieu lui disait de faire ça, que le miraculeux allait prendre place. Et peut-être que ça a l'air ridicule de jour après jour que tu continues à prier, que tu continues à demander, peut-être que d'aller frapper à la porte du cœur de Dieu, dire, « Seigneur, ramène mes enfants. Seigneur, guéris ma maison. Seigneur, guéris peut-être au travail. Aide-moi. » Mais elle l'a fait. Et vous pouvez vous imaginer la scène, c'est du surnaturel. Alors qu'elle vide cette petite fiole-là, l'huile se multiplie. Ça se remplit un vase, un autre vase, un autre vase. Et vous pouvez vous imaginer les enfants dire « Maman, maman, c'est miraculeux ce qui prend place! » Ils devaient se mettre à rire. Ils ont dû dire « On est sauvés, on ne sera pas vendus, on n'a plus de dette. » Dieu a intervenu. Si Dieu l'a fait pour une petite veuve, avec une petite fiole, il a multiplié l'huile. Le même Dieu est ici dans ce lieu. Son onction est ici, dans ce lieu. Il est ici pour venir se déverser en toi ce matin. Alors, je vais vous inviter à vous lever et j'aimerais qu'on puisse terminer en prière. Alléluia. Et j'aimerais tout de suite, pour le sauver du temps, je voudrais inviter toutes les femmes à venir vous approcher en avant. Sortez des rangs quelques secondes, comme cette femme. Venez avec vos vases. Peut-être que tu as besoin ce matin, toutes les mamans, toutes les femmes, les tatis, les grands-mamans, les mamans spirituelles, tout. Peut-être que tu as besoin ce matin que Dieu vienne enlever des étiquettes. Des étiquettes que quelqu'un a mis sur toi. Des Madame Monique, des Guy Tremblay qui ont mis des étiquettes sur ta vie. Peut-être qu'il y a besoin de t'enlever des étiquettes que toi-même tu t'es mis. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas à la hauteur, je ne serai jamais capable. Dieu a besoin. Viens, Seigneur, enlever des étiquettes. Je dois me voir ce matin comme toi, tu me vois. Cette princesse, sacerdoce royale, tu as donné ta vie pour moi. Peut-être que ce matin, un de tes réservoirs est vide. Qu'as-tu dans ta maison? Peut-être tu dis, j'ai juste un petit vase d'huile, Stéphanie. J'ai juste un petit vase d'huile pour prendre soin de ma maison, de mon mariage, aller au boulot. J'ai besoin aujourd'hui que Dieu vienne renouveler, vienne remettre de l'huile dans mon réservoir corporel, dans mon réservoir émotionnel, dans mon réservoir spirituel. Peut-être que tu es ici, tu es cette Sarah. Tu as besoin que Dieu te redonne la foi d'être confiante qu'il va agir. Peut-être tu es Naama, mais une chose est certaine, nous sommes toutes cette veuve qui a besoin d'être que nos vases soient remplis et de voir le miracle.